Chips and guacamole. Don't put no nachos in my
bowl. ¿Qué es eso, Corias? Hey, ça reste dans la tête, ça?
Oui,
hey,
tout à fait.
C'est dans la catégorie Baby Shark, je trouve.
Désolé les gens qui vont chanter ça dans la douche à soir.
Mais pourquoi est-ce qu'on écoute Chips and Guacamole, donc croustille et guacamole?
Croustille, on s'en sac. On voulait guacamole.
Parfait.
Parce que aujourd'hui, 16 septembre, c'est aussi le jour national du guacamole.
Parfait. Puis, ça donne faim.
Ouais, ben écoute, on en jasait un peu ce matin, puis ça m'en prenait pas plus pour avoir envie de vous parler de nourriture pendant ma jasette aujourd'hui, mais plus particulièrement de la création ou de l'origine de certains aliments.
OK.
Guacamole, là. C'est
t'as
vieux comme le monde.
T'as-tu cherché la guacamole? Oui.
Ben oui.
OK, j'espère.
Je pouvais pas juste parler de d'autres choses que de la guacamole.
Parfait. Ça vient d'où? Ben, ça vient du Mexique, j'imagine. Ben,
En fait, c'est au début de la
civilisation.
Parce qu'on
se rappellera des annonces, là. Les avocats de Mexico.
Oui.
Ça fait que ça vient-tu du Mexique?
C'est les Aztèques
okay.
qui ont inventé le guacamole vers 1200 après Jésus-Christ. Et c'est une origine donc sud-américaine. Mais ça vient du mot castillan aguacamole.
OK.
Guacamole aguacamole, qui signifie sauce à l'avocat. Fait que, rendu là, c'est encore cohérent. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que par contre, le mot avocat en espagnol ressemble beaucoup au mot testicule en espagnol, puis c'est voulu.
Ben, c'est parce que c'est la forme du
puis
du
back
fruit,
in the days, là, avant les Aztèques, les femmes n'avaient pas le droit de les toucher.
Ah, bon.
C'était un boys club d'avocats parce que seules les mains délicates des hommes pouvaient savoir s'il était bien mûr. Pour vrai, on était là comme
mais ça fait longtemps.
Puis finalement, après ça, ils ont décidé de les effouérer.
Ouais, c'est ça. On y va délicatement, mais on fait de la purée avec.
Exactement. Mais ça a pris quand même plusieurs années. Les prémices de la recette restent encore floues. C'était comme pas clair de où ça venait parce que le peuple mexicain et colombien, par contre, se dispute encore son origine. Un peu comme...
C'est comme la poutine.
Victo et Roman pour la poutine, ouais. Exactement. Mais bon, ça vient des Aztèques. Il existe une légende aztèque qui narre la fable mythologique de... Quetzalcoatl, la divinité du serpent à plumes. Ce dieu aztèque était une grande figure religieuse de la Mésoamérique et était avec son rival Tezcatlipoca à l'origine.
Mais son lien avec la guacamole,
à
c'est
minute,
quoi?
À l'origine, il était à l'origine de la création de la Terre. Et à en croire cette légende-là, c'est lors de son passage sur Terre que cette divinité aztèque en particulier aurait accordé aux humains la recette du guacamole, alors considéré comme un aphrodisiaque. Donc, c'est ça, on ne sait pas qui l'a inventé, mais ça a l'air que c'est un dieu qui leur a donné.
OK.
Puis ça fait tellement longtemps qu'on ne peut plus savoir. Fait qu'on vit avec maintenant et on a ce fabuleux plat à manger sur le bord de la piscine. C'est quand même un plat d'été, là. Je pense que la saison du guacamole est un petit peu...
Oh non, moi, je mange ça à l'année.
À l'année, bah,
à l'année.
Écoute,
non, non, tout le temps.
Et est-ce que tu manges des popsicles à l'année?
J'en mange pas beaucoup de façon générale, même l'été. Je suis pas... c'est ça.
T'es plus crème glacée que popsicle?
Ouais, un peu plus. J'aime ça. C'est juste que je prends pas le temps d'en acheter.
Okay.
C'est bête de même.
Ben, sais-tu, les popsicles ont été inventés parce que, ben, c'est un accident. Ils
ont
été inventés par un garçon de 11 ans qui s'appelle Frank Epperson. Ça a été inventé en 1905. Il faisait froid, OK? Puis
ouais.
Il avait oublié dehors un verre d'eau mélangé avec du soda agrémenté d'une touillette, une petite spatule. En revenant le lendemain, il s'est rendu compte que le mélange avait congelé. Il l'a mangé. Après ça, il a reproduit l'expérience et il a fait un mini-commerce dans son quartier.
Ah, bon.
Pour vendre la petite liqueur gelée.
Ça devait déjà exister. C'est juste que lui, il a dit « OK, on va répandre ça ».
Ouais, mais 1905, quand même, ça fait quand même un petit bout. Mais ce serait un accident.
Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, c'était un aliment de d'hiver.
Oui, c'est parce qu'il fallait qu'il fasse froid pour le geler. Les M&M, c'est pas un accident, mais c'est quand même juste un hasard un petit peu parce que c'est pendant la guerre civile espagnole que les soldats avaient l'habitude d'enrober des morceaux de chocolat de sucre pour éviter qu'ils fondent à cause de la chaleur.
Okay.
Forrest Mars était en Espagne à ce moment-là, puis quand il est revenu aux États-Unis, il a amené cette idée-là avec lui et il a fondé avec Bruce Murray, le fils du président de Hershey, la société M&M pour... Mars et Murray.
Mm-hmm.
Puis, c'est un peu ça leur branding, dans le fond, que ça ne fond pas dans les mains. Il a pris le truc des soldats du sucre, il a fait tout simplement un enrobage autour d'un chocolat.
Okay.
Ça a fait le bonheur des soldats qui étaient envoyés pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'était vendu comme dans des petits tubes en carton à ce moment-là et ils ont été commercialisés officiellement vers la fin des années 1940. Et en 1948, les petits emballages de carton ont laissé place à des sachets plus comme on connaît aujourd'hui, des sachets de bonbons.
On avait un beau contenant recyclable.
Ben oui, je sais, je suis comme c'est poche.
C'est super. Mais ça fond pas. Ça tâche les doigts si tes mains moites puis chaudes quand
ben,
même.
C'est
là.
Ça.
Le chocolat fond pas, là, mais...
C'est ça, je suis comme, ça semble que c'est bof, là.
Laissez-le pas à grosse chaleur, maintenant.
Mais non, exact. Et avant, c'était juste ce brun. Mais après ça, ils ont ajouté les couleurs rouge, jaune et vert en 1960.
Ah bon.
Et après, les personnages sont arrivés tranquillement.
Oui, c'est ça.
Ils ont créé la grande
après
famille.
Après ça, il y a eu les peanuts. Puis après ça, il y a eu...
Ah oui, c'est ça. Ben, parlant de peanuts, le beurre de pin. Le beurre d'arachide remonte à 1884. Il a été breveté par un pharmacien canadien, Marcellus Gilmore Edson, qui venait de Bedford, au Québec. Et 6 ans plus tard, en 1890, dans le cadre d'une expérience, il y a un médecin américain, George A. Bell Jr., qui a moulu des arachides en vue d'obtenir une pâte qui servait de substitut alimentaire riche en protéines pour les personnes n'ayant pas de bonnes dents. Fait que c'est juste du manger mou à base.
Ben, c'est bien bon pareil.
Et on met ça sur nos toasts maintenant.
Et c'est un produit d'ici. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis ben là, il faut que je le dise, il y a Kraft qui fait le plus. C'est la compagnie la plus connue là, qui l'a commercialisé à grande échelle. J'ai de la pub souvent sur mes réseaux sociaux de Kraft. Puis c'est le pot. Il y a l'étiquette vert dessus, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Puis il dit, il y a juste les Canadiens qui comprennent c'est quoi ce pot-là.
Oh,
je trouve ça excellent.
Bon. Ouais. C'est vrai que c'est très bon. Les frères Kellogg, eux, ils ont eu le brevet comme américain un petit peu plus tard, mais ils n'ont jamais eu comme la...
Pour faire du beurre de peanuts.
Oui, mais ils n'ont jamais eu comme la mention d'être les inventeurs. Mm-hmm. Par contre, ils sont inventeurs de quelque chose d'autre.
Ben, les frères Kellogg et les céréales.
Les céréales, ben oui, on leur doit l'invention des cornflakes. Ça a été inventé dans les années 1890 et c'est à la base pour lutter contre la masturbation.
Hein?
Oui, oui.
J'ai besoin d'explications, je comprends pas.
Dans les années 1890, le docteur John Harvey Kellogg et son frère ont inventé les fameux cornflakes.
Ouais.
Le docteur Kellogg était un fervent adventiste du septième jour.
C'est quoi ça?
Une religion.
OK.
Il s'opposait à toute forme d'activité sexuelle et encourageait l'alimentation végétarienne.
OK.
Il était, bon, ben, tu sais, le mouvement de pensée, c'était que les États-Unis étaient devenus moralement corrompus et que le meilleur remède face à cette corruption était de donner aux gens, entre autres, des aliments fades.
Donc, des cornflakes, c'est fait pour être fade.
Oui, c'est fait pour être fade.
Hey, c'est vendeur.
Vraiment. Et c'est ça, il dirigeait un sanatorium, le sanatorium de Battle Creek. Je l'ai googlé, c'est énorme.
OK.
C'est gigantesque. Comme c'était un centre hospitalier de renommée mondiale, mais qui avait des pratiques qu'on n'offrait plus aujourd'hui.
Non, c'est ça.
C'était, les patients suivaient notamment des régimes à base d'aliments insipides et se faisaient faire plein d'autres affaires weird dans le but de supprimer les pulsions charnelles. Mais c'était immense. Là.
Comme... Puis il y avait des bols de cornflakes.
Puis il y avait des bols de cornflakes, mais je suis comme, c'est pas si mauvais que ça, pourtant, des cornflakes.
Non, ça semble,
mais
un bol de cornflakes, au bon moment, c'est réconfortant.
Tu donnes ça
à
quelqu'un parce que tu veux qu'il n'y a plus le il n'y a plus le goût de rien faire. Tu m'as donné des cornflakes, mais moi, je sais pas, ça me donne quand même du gaz. Là. Ça me nourrit.
Bon.
C'est
pas
mauvais. En plus, j'imagine qu'il n'y avait pas le droit de rajouter de sucre, mais ça reste que c'est croustillant. Fait que même sans sucre, c'est plutôt bon.
Ben oui.
Après, on fait les Frosted Flakes.
Ah là.
Là ça, là, par
ça,
exemple,
c'est les céréales
c'était pas
de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'était ça, moi, ma céréale. C'était des Frosted Flakes. Et ça, c'était
moi
bon.
J'en ai mangé plus qu'en masse.
Oui, c'est ça. Et là, j'ai faim. C'est pas drôle, Coriane. On s'excuse. On
3h25.
Vous a donné faim. Ah, il est de bonne heure pour souper. Mais je pense, là, j'irai me chercher quelque chose. Là, des petits nachos avec de la guacamole, là. Il me semble que ça le
ou
ferait.
Ou des céréales.
Coriane, merci beaucoup.
Merci,
Seb. Passe une belle fin de semaine.
Toi aussi.